Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Mathieu Rouault.
Bienvenue sur RMC, 8h37. Notre invité ce matin, Benjamin Davido, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Nous allons revenir évidemment sur l'intervention d'Olivier Véran hier soir, mais je voudrais qu'on remonte un peu le temps avant ça. 30 juillet dernier, deux points, ouvrez les guillemets. J'ai une cellule de crise à midi, ça montre que l'épidémie n'est pas derrière nous. Demain, si on arrive à une deuxième vague, ce serait un aveu d'échec. C'était le 30 juillet dernier. Qui disait cela?
C'est Olivier Véran.
C'est vous. Ah. C'est vous qui disiez cela à ce micro-là. Aveu d'échec, nous avons échoué.
Mais je me rappelle très bien, en tout cas, c'est amusant. Je me disais, un aveu d'échec, c'est tout à fait ce que j'avais soutenu. C'est-à-dire que, je pense, sur un plan médical, pour nous, une reprise de vague, ça sera un aveu d'échec, dans le sens où on n'a pas su faire la pédagogie nécessaire pour contenir l'épidémie, expliquer aux Français comment faire pour garder ces mesures barrières et faire en sorte que, justement, il n'y ait pas cette deuxième vague qu'on subit. Oui, c'est un échec. C'est un échec, malheureusement, très difficile à digérer parce que, actuellement, la deuxième vague n'est toujours pas terminée et qu'on a l'impression qu'on ne verra pas le bout du tunnel pour le moment de cette épidémie.
On se prépare déjà à la troisième, puis sans doute à la quatrième. Il y en aura.
Alors, c'est très difficile, hein. Je crois que personne n'a de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a toutes les forces vives pour que le virus reprenne le cours de l'épidémie et de la pandémie. C'est ça là aussi la notion qu'on n'avait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'au-delà d'un aveu d'échec individuel, pour reprendre l'expression, c'est l'aveu d'échec de la société occidentale et du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire des contacts entre les humains qui est extrêmement difficile à contrôler, à juste titre ou non. En revanche, le succès sur lequel je n'aurais pas pu vous répondre à l'époque, et l'aveu de succès qu'on peut se féliciter toute la communauté scientifique aujourd'hui, c'est d'avoir réussi en un temps record d'arriver à vacciner en France en 2020.
Alors on va revenir sur le vaccin, mais cette impression de toujours faire la course, être en retard, pourquoi ne pas prendre des mesures en amont? Regardons Olivier Véran hier soir, les chiffres sont difficiles à interpréter, attendons encore 2-3 jours pour mettre en place quoi? Un couvre-feu avancé à 18h, seulement dans les départements qui aujourd'hui sont les plus touchés. On a l'impression d'être pareil, le 30 juillet, le 15 octobre. Pourquoi attendons-nous? Est-ce qu'on peut se payer ce luxe-là?
Alors, ce que je vais vous répondre, c'est qu'on est tout à fait dans la même situation, vous avez raison, qu'à peu près autour du 15 octobre. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus attendre, mais le problème aussi, c'est que les Français n'en peuvent plus, eux, de ces décisions politiques, sanitaires, qui sont très difficiles à prendre et qui enraye la machine économique. C'est ça aussi la réalité. Il y a une période qui est quand même très difficile, qui paradoxalement devrait être une période de jours heureux, qui est la période des vacances de Noël, qui est extrêmement difficile avec les fêtes du réveillon qu'on a connues, même si il y a une dérogation, le 31 qui va être abrogé d'une certaine façon.
Ça, c'est le point de vue psychologique, mais bien sûr, du point de vue sanitaire et médical.
Non, mais je pense que ça joue pour les décisions politiques, Mathieu, et que la réalité, c'est que vous avez raison, il faudra prendre des décisions difficiles, pour reprendre l'expression de Monsieur Delfrécy, et très probablement que ces décisions locales vont être validées dans les heures qui viennent.
Jean-François Delfrécy qui dit aussi, plus vite on prend des décisions, moins elles seront dures.
Mais vous avez raison, et à l'extrême, je peux vous citer le modèle chinois ou le modèle taïwanais qui prend des décisions extrêmement drastiques, extrêmement en amont, qui vaccine depuis octobre, des décisions de traçage, décisions qu'on n'est pas capable de prendre dans notre monde occidental aujourd'hui et qui permettent de contrôler durablement l'épidémie. Faut le rappeler, aujourd'hui, à Taïwan et d'ailleurs à Wuhan, là où le berceau de l'épidémie, la vie d'avant a déjà repris.
Alors tant même qu'on n'acceptera pas ces situations-là que vivent les Asiatiques, on aura toujours ce décalage qu'on paye cher après. C'est ce que dit, alors là pour le coup, c'est Gilani Annan. Ils travaillent dans le même hôpital
bien
que
sûr,
nous.
On travaille très bien tous les deux ensemble. Et l'autre exemple, c'est pour illustrer ce que vous et vos propos, c'est l'exemple de l'Israël qui a pris le parti de reconfiner pour vacciner. Vous voyez où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire qu'en fait, on veut baisser le nombre de contaminations pour arriver à un taux où on peut suivre finalement les cas index et surtout vacciner très vite, et c'est ça le luxe que eux se payent, pour pouvoir enrayer le plus vite et revenir dans le top 10 des pays pour lesquels l'épidémie et le monde d'avant repart.
Alors oui, près de 500 000 Israéliens déjà vaccinés, 800 000 Britanniques, plus de 2 millions d'Américains, 40 000 plus proches de nous en Allemagne, nous c'est quoi, une centaine? Franchement, Benjamin Davido, on est encore une fois à la traîne. On s'est gouré sur les masques, on s'est gouré sur les tests. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper sur la stratégie vaccinale? Pourquoi prendre du temps, là, encore une fois?
Alors, il y a une chose qu'il faut rappeler d'abord, c'est que la deuxième vague aujourd'hui est plus meurtrière que la première. Il y a eu plus de 32 500 morts durant cette vague, contre à peu près 30 000 pendant la première vague. et que malheureusement, il faut rappeler que ce virus tue 3 fois plus que la grippe pour une maladie pour laquelle on a un vaccin. Et donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut y aller. On peut se permettre d'avoir quelques jours de rodage. Parce que d'abord, si vous me l'aviez demandé à ce micro il y a quelques semaines, est-ce qu'on serait capable de vacciner en 2020? Je vous aurais dit, de toute façon, on n'est pas dans un sprint. C'est probablement un marathon, mais on n'est pas à 15 jours près. Mais maintenant, à partir du moment où on a décidé que ça débutait, il faut y aller. Et dans 10 jours, si la période de rodage, on n'a pas été capable de monter en puissance de façon exponentielle, alors on va dans le mur.
Vous appelez le gouvernement, le conseil scientifique à revoir cette stratégie vaccinale, à l'accélérer?
Je pense que la stratégie...
Parce que là, l'horizon, c'est l'été.
La stratégie avec les vagues qui a été formulée, à mon avis, est la bonne. Parce que d'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a que 40% des Français qui veulent se faire vacciner, un peu plus. Et que globalement, ils veulent aussi le temps de la réflexion. Maintenant, ce qu'il faut, vous avez raison, c'est pas tomber dans le piège de l'arroseur arrosé, de se retrouver à vacciner durant l'été. D'abord, parce qu'aussi, on sait pas bien de quoi sera fait l'été et qu'en été, en général, si tous les individus se déplacent sur l'ensemble du territoire, si tout se passe bien comme l'an dernier, ça va être très difficile d'avoir des individus captifs pour les vacciner. Et que faut qu'on vaccine le plus vite possible. Parce que vous le rappelez, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas le luxe d'attendre 2 jours pour décider un confinement local. Alors, est-ce qu'on a le luxe d'attendre 15 jours supplémentaires pour la vaccination? J'ai envie de dire.
Pour autant, Benjamin Davido, est-ce que vacciner plus vite, c'est une garantie pour éviter une nouvelle vague? Prenons la Grande-Bretagne. Étude, il faudrait vacciner 2 millions de personnes par semaine pour éviter une nouvelle vague. Là encore une fois, nous ne faisons que courir après.
Mais c'est ça justement que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 15 jours près, mais en revanche, dès qu'on démarre, il faut qu'on soit capable. Parce que faire 100 vaccinations par jour, à ce moment-là, on n'atteindra pas l'immunité collective avant plusieurs années. L'objectif, c'est qu'il faut qu'à l'automne, la campagne de vaccination soit terminée et qu'on puisse avoir l'espoir d'avoir cette immunité collective pour que 2022 soit une année, je l'espère, épique en France où l'épidémie est contrôlée.
À condition que les Français acceptent le vaccin. 60%.
Et oui, vous avez raison, c'est aussi ça la condition sine qua non. Alors, en réalité, je pense que...
On nous avait dit, quand les vaccins arriveront, la population française sera moins réticente. C'est l'inverse qui est en train de se passer.
Vous avez raison. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il faut rappeler qu'en mars-avril, il y avait 70% des Français qui réclamaient la vaccination. Aujourd'hui, on a seulement 70% parmi les gens vulnérables, fragiles, à risque de faire un Covid. Ce qui est déjà une première étape, parce que c'est eux les premiers qu'il faut vacciner si on veut éviter cette surcharge hospitalière et cette vague hospitalière. Mais c'est vrai qu'on a un problème d'accessibilité, probablement aussi du fait, parce qu'on a beaucoup parlé des vaccins français, du vaccin Sanofi, du vaccin Pasteur, et que finalement, ceux-là, ils n'arrivent pas, on ne les voit pas. Et qu'aujourd'hui, on est, à l'image de cette crise qu'on décrit, dans une course à la vitesse des pays qui vont avoir le vaccin le plus vite, et qui sait, c'est l'Angleterre avec AstraZeneca, qui vient de le valider, je crois, aujourd'hui, et les États-Unis avec Pfizer, et dans une certaine mesure, l'Allemagne avec BioNTech.
Pourquoi vous dites d'ailleurs que si nous avions un vaccin français, donc Sanofi, les Français seraient moins réticents?
Moi, je pense parce que d'abord, cette vaccination, c'est le reflet de l'adhésion ou non à la politique actuelle. Et que si on avait un vaccin français, on aurait peut-être le chauvinisme, ou du moins l'engouement, d'abord une certaine croyance, une certaine confiance dans les vaccins qui sont faits en France. Et la décision d'avoir un vaccin technologique ARN messager nous repose finalement dans un espèce d'anti-américanisme primaire qui, à mon avis, n'est pas forcément légitime et surtout pas fondé scientifiquement. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes dans le monde vaccinées. Il n'y a pas plus d'effets secondaires avec ce vaccin.
Avec le vaccin Sanofi, il n'y aura plus ce côté...
Cette polémique.
C'est certain.
Moi, je le pense en tout cas, puisque d'abord, on sera sur une technologie radicalement différente, beaucoup plus conventionnelle de vaccination.
Qu'on connaît déjà.
On connaît déjà, absolument. On aura d'abord dans le temps, puisqu'il est annoncé à la fin
tout aussi efficace.
Du dernier trimestre 2021, donc on aura plus de recul, normalement tout aussi efficace, ou du moins, d'abord pour parler d'efficacité, faut avoir fini les phases 4, parce qu'il faut des données en phase réelle. Mais aujourd'hui, le problème du vaccin, c'est pas un problème d'efficacité, vous noterez. Le problème du vaccin, c'est un problème d'acceptabilité et de peur des effets indésirables et aussi du peur de l'inconnu. Mais le peur de l'inconnu, c'est le même que le peur de cette 3e ou 4e vague.
Est-ce que pour inciter les Français, il ne faut pas mettre en place ce fameux passeport vert dont on parle de plus en plus? Les élus UDI, notamment, militent pour.
Alors moi,
donner plus de droits, plus d'accès à la culture et au restaurant pour ceux qui acceptent le vaccin.
Moi, je vais vous dire, quand on m'a posé la question, est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire? J'ai dit non, parce que d'abord, il faut que ça soit un choix individuel, personnel, et aussi, il faut que les Français, finalement, apprennent cette espèce de bienveillance à vouloir avoir une protection pour la collectivité. J'ai bien peur qu'on doive arriver à un passeport vert, peut-être dans les mois qui viennent, si on n'arrive pas à avoir l'obtention et l'adhésion des Français à la vaccination, qu'on n'aura pas le choix. Pourquoi? Non pas que je le souhaite, mais on voit bien que certains pays commencent déjà à faire des passeports. C'est le cas
Israël,
de Singapour. C'est le cas
Singapour.
Absolument. Et que on risque de tomber là-dedans finalement si, de notre propre chef, on n'accepte pas cette vaccination et on ne prend pas le pas sur l'épidémie. La question, c'est un choix cornélien. C'est est-ce qu'on veut doubler par la droite le virus et reprendre le contrôle de l'épidémie et en finir et que la vie d'avant reprenne son cours? ou est-ce qu'on veut être dans une attitude attentiste? Il faut rappeler que l'épidémie d'Ebola pour laquelle on n'a pas eu de vaccin a duré plus de 3 ans, une épidémie localisée dans un seul continent.
Et donc, ça ne nous touchait pas.
Ça ne nous touchait pas, mais vous avez raison. Mais aujourd'hui, cette pandémie, elle nous touche justement. Et donc, chacun doit prendre des décisions. Et je pense qu'aussi, au-delà des décisions, parce que souvent, on résume cette épidémie, justement, d'ailleurs, ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie à la France. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau européen. Il faut homogénéiser, à mon avis, les décisions pour ne pas tomber dans un espèce d'arbitrage très français.
Benjamin Davido, regardons un petit peu ce qui nous attend. Alors, pour les années à venir, avec de l'espoir, c'est promis. D'abord, pour les jours à venir, le réveillon de la Saint-Sylvestre, la nuit du Nouvel An, là encore, de nombreux Français, 25%, ce ras-le-bol qui s'exprime, 25% qui feront la fête malgré les interdictions. C'est la nuit de tous les dangers, la nuit du 31 ?
Moi, je crois qu'on a trop souvent résumé cette reprise de la deuxième vague ou cette troisième vague, peu importe la sémantique, au 24 et au 31.
De toute façon, elle était déjà en marche avant.
Vous avez raison, et surtout, la réalité c'est quoi? C'est que si on regarde dans le rétroviseur, retour vers le futur, comme vous avez fait en début d'interview, c'est que les deux vagues successives ont pris racine suite à deux grands épisodes de vacances scolaires. La première, souvenez-vous, c'est ce fameux cluster des contaminés de Montjoie qui porte bien son nom. Vacances de février, les Alpes, les Italiens, les Français.
Ça veut dire qu'il va falloir dire adieu aux vacances?
Alors, je ne sais pas s'il faut
dire... Ce serait plus efficace?
Je ne sais pas s'il faut dire adieu aux vacances, c'est compliqué, mais en tout cas... Au même titre que notre vie quotidienne, il faut qu'on change notre mode de vie. Et on voit bien que les vacances aujourd'hui, le cœur n'y est pas. Les vacances de ski, vous pouvez pas faire de remontée mécanique. Alors ça, il faut d'ailleurs l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de remontée mécanique? C'est pour diminuer l'incidence des accidents de ski et donc de surcharger les hôpitaux localement avec des accidentés du ski plus que de la Covid. Et donc on voit bien qu'on est terrassé par ce virus, à la fois psychologiquement, sanitairement, économiquement. Et encore une fois, ça nous ramène à une question. Est-ce qu'on veut justement pouvoir être sûr de passer une année 2021 et des vacances d'été dans des bonnes conditions et pas se reposer la question d'une hypothétique nouvelle vague? Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui vacciner. C'est comme ça qu'on a enrayé les plus grandes épidémies.
Parce que il va falloir encore tenir longtemps.
Oui, je le pense. Je le pense tout à fait.
Certains parlent d'un retour à la vie d'avant, à l'horizon automne 2021. Oui ou non, Benjamin Davido?
Alors moi, ça dépend où est-ce que vous passez le curseur. J'ai déjà répondu à cette question. Pour moi, fin d'année 2021, on va contrôler l'épidémie en France. En revanche, le retour à la vie d'avant, pour certains, si vous voyagez beaucoup, si votre plaisir c'est d'aller en Inde, en Indonésie, dans des pays où il n'y a pas forcément le même revenu, les mêmes capacités d'accès au vaccin, eh bien, ça sera, à mon avis, pas avant 2024. Pourquoi? Parce que vous regardez...
Pardon, 2024?
2024, je le répète. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'exemple de la Chine qui a commencé à vacciner en octobre, c'est pas moi qui le dis, ce sont les dirigeants de la politique sanitaire locale qui vous dit qu'il faudra 18 mois pour vacciner l'ensemble de la population. Et donc, vous imaginez les pays aujourd'hui, on est là face à un choix qu'on a dit, qui est qu'on ne veut pas se vacciner alors qu'on commence à avoir le vaccin. Il y a des pays qui n'ont même pas accès à cette vaccination, qui n'ont même pas d'horizon du début. Et quand vous avez des populations comme l'Inde avec plusieurs milliards d'individus, vous vous rendez compte le temps que ça prend pour vacciner cet ensemble de populations? On parlait tout à l'heure de la vitesse d'action qu'on avait nous-mêmes ici en France. Donc très clairement, ça veut dire qu'il y a un véritable travail à faire mondial, parce qu'encore une fois, c'est une pandémie, c'est pas une épidémie française. Et après, chacun mettra le curseur là où il pense que le retour à la vie d'avant correspond à son mode de vie. Mais je pense que pour vacciner l'ensemble de la planète et surtout dans une situation où le virus est contenu, parce que c'est ça la vie d'avant, c'est l'absence de la Covid,
mais est-ce qu'on a
ça va prendre des années.
Est-ce qu'on a cette certitude? Parce que bon, très bien, 2024, c'est un horizon, nous avons enfin une perspective. Mais avons-nous la certitude qu'en 2024, s'en sera terminé du Covid-19?
Alors vous avez raison, il y a chaque mot a son importance et il y a le poids des mots. Pour que ça soit le cas, d'abord il faut qu'on puisse avoir cet accès à cette vaccination mondiale et aussi que le vaccin soit efficace dans la durée. Aujourd'hui c'est une véritable inconnue, on ne sait pas si au bout d'un an il faudra faire un rappel comme la grippe. Et il n'est pas exclu qu'on puisse vivre avec la Covid comme on vit avec la grippe. Et aujourd'hui, et ça n'échappe à personne, ça fait plus d'un siècle qu'on vit avec la grippe et qu'on doit se faire vacciner chaque année pour éviter des rebonds épidémiques. Et donc ça on ne sait pas, ça reste un inconnu.
Et c'est une donnée qu'il va falloir intégrer. Est-ce que, effectivement, comme pour la grippe, nous pourrons, avec les moyens technologiques, financiers que nous connaissons, finalement, mettre ça dans notre quotidien?
Alors d'abord, je crois qu'il y a une question derrière ça. C'est est-ce que d'ici là, on aura les capacités d'avoir un nouveau vaccin et un vaccin durable?
Que ce soit banal, qu'on arrête d'en parler tous les jours à la une des informations.
Mais très clairement, à partir du moment où on aura un vaccin qui empêche de faire des formes graves, si on a cette immunité, eh bien, vous ferez un Covid comme vous faites un autre coronavirus, c'est-à-dire une grippe banale saisonnière. Et à ce moment-là, on n'en parlera plus. Et ça fera partie, ça remplacera la grippe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. La Covid a remplacé la grippe. ça sera une infection respiratoire parmi tant d'autres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Faut d'ores et déjà se préparer aux prochaines pandémies.
Oui.
Et c'est un excellent galop d'essai, à mon avis.
Il faudra se préparer à des pandémies encore plus sévères à l'avenir, à quelque chose qui pourra être encore pire. C'est ce que dit le responsable de l'OMS en charge des situations d'urgence. Ça veut dire que le pire, finalement, n'est pas encore derrière nous.
Oui, alors est-ce que le pire est devant nous? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait les prochaines pandémies. Est-ce que justement, on ne sera pas plus proactif et on ne saura pas mieux faire et finalement, ça ne sera pas plus simple que la Covid? Franchement, c'est une question auxquelles je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme le ciel qui nous tombe sur la tête. Il y a eu des épidémies et des pandémies de tout temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va très 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 vite et que comme on va très vite, on a envie que ça se finisse très vite.
Alors, je sais que vous n'êtes pas pour les restrictions à tout va, que vous êtes mesuré dans les recommandations que vous pouvez donner, Benjamin Davido. Revenons à cette nuit du Nouvel An. Quelle est la bonne mesure pour éviter le pire, justement? Qu'est-ce que vous conseillez aux Français?
Écoutez, très clairement, je crois qu'il faut essayer de faire comme on a fait à Noël, c'est-à-dire de limiter le contact entre les individus, parce que c'est pas le virus qui circule sur le territoire, ce sont les individus. D'abord, il y a des déplacements de population, et ça, il faut essayer de les limiter au possible. Et très clairement, si vous me demandez mon avis personnel, pour moi, le cœur y est pas. Moi, je fêterai lorsque l'épidémie sera terminée, et je l'espère à la fin de l'année prochaine pour le territoire français. Et après, chacun fera comme il
veut. Le meilleur moyen de célébrer 2021, c'est de ne pas réveillonner.
Moi, je pense que le meilleur moyen de fêter 2021, c'est de se faire vacciner et qu'à la fin de l'année 2021, on soit là pour fêter la fin de l'épidémie en France.
Et vous reviendrez, évidemment.
Évidemment, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Benjamin Davido. L'une des voix, effectivement, de 2020, de ce coronavirus. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Notre invité ce matin, merci beaucoup. Vous écoutez RMC, il est 8h54.